Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc pour Lectures en liberté et un nouvel extrait du roman de Balzac, Le Lys dans la vallée. Les derniers jours que je passais dans ce pays furent ceux de l'automne effeuillé, jours obscurcis de nuages, qui parfois cachèrent le ciel de la Touraine, toujours si pur et si chaud dans cette belle saison. La veille de mon départ, Madame de Mortsauf m'emmena sur la terrasse avant le dîner. Mon cher Félix, me dit-elle, après un tour fait en silence sous les arbres dépouillés, vous allez entrer dans le monde, et je veux vous y accompagner en pensée. Ceux qui ont beaucoup souffert ont beaucoup vécu. Ne croyez pas que les âmes solitaires ne sachent rien de ce monde, elles le jugent. Si je dois vivre par mon ami, je ne veux être mal à l'aise ni dans son cœur ni dans sa conscience. Au fort du combat, il est bien difficile de se souvenir de toutes les règles. Permettez-moi de vous donner quelques enseignements de mère à fils. Le jour de votre départ, je vous remettrai, cher enfant, une longue lettre où vous trouverez mes pensées de femme sur le monde, sur les hommes, sur la manière d'aborder les difficultés dans ce grand remuement d'intérêts. Promettez-moi de ne la lire qu'à Paris. Ma prière est l'expression d'une de ces fantaisies de sentiments qui sont notre secret à nous autres femmes. Je ne crois pas qu'il soit impossible de la comprendre, mais peut-être serions-nous chagrines de la savoir comprise. Laissez-moi ces petits sentiers où la femme aime à se promener seule. Je vous le promets, lui dis-je, en lui baisant les mains. Ah, dit-elle, j'ai encore un serment à vous demander, mais engagez-vous d'avance à le souscrire. Oh oui, lui dis-je, en croyant qu'il allait être question de fidélité. « Il ne s'agit pas de moi, » reprit-elle en souriant avec amertume. « Félix, ne jouez jamais dans quelque salon que ce puisse être. Je n'accepte celui de personne. »« Je ne jouerai jamais, » lui répondis-je. « Bien, » dit-elle. « Je vous ai trouvé un meilleur usage du temps que vous dissiperiez au jeu. Vous verrez que là où les autres doivent perdre tôt ou tard, vous gagnerez toujours. Comment ? La lettre vous le dira, répondit-elle d'un air enjoué, qui ôtait à ses recommandations le caractère sérieux dont sont accompagnées celles des grands-parents. La comtesse me parla pendant une heure environ et me prouva la profondeur de son affection en me révélant avec quel soin elle m'avait étudié pendant ces 3 derniers mois. Elle entra dans le dernier repli de mon cœur en tâchant d'y appliquer le sien. Son accent était varié, convaincant, ses paroles tombaient d'une lèvre maternelle et montraient autant par le ton que par la substance combien de liens nous attachaient déjà l'un à l'autre. Si vous saviez, dit-elle en finissant, avec quelles anxiétés je vous suivrai dans votre route, quelle joie si vous allez droit, quels pleurs si vous vous heurtez à des angles. Croyez-moi, mon affection est sans égale. Elle est à la fois involontaire et choisie. Ah, je voudrais vous voir heureux, puissant, considéré, vous qui serez pour moi comme un rêve animé. Elle me fit pleurer. Elle était à la fois douce et terrible. Son sentiment se mettait trop audacieusement à découvert. Il était trop dur pour permettre le moindre espoir au jeune homme altéré de plaisir. En retour de ma chair laissée en lambeaux dans son cœur, elle me versait des lueurs incessantes et incorruptibles de ce divin amour qui ne satisfaisait que l'âme. Elle montait à des hauteurs où les ailes diaprées de l'amour qui me font dévorer ses épaules ne pouvaient me porter. Pour arriver près d'elle, un homme devait avoir conquis les ailes blanches du séraphin. « En toute chose, lui dis-je. » « Bien. Je veux être l'étoile et le sanctuaire, dit-elle, en faisant allusion aux rêves de mon enfance et cherchant à m'en offrir la réalisation pour tromper mes désirs. « Vous serez ma religion et ma lumière, vous serez tout, m'écriai-je. Non, répondit-elle, je ne puis être la source de vos plaisirs. » Elle soupira et me jeta le sourire des peines secrètes, ce sourire de l'esclave un moment révolté. Dès ce jour, elle fut non pas la bien-aimée, mais la plus aimée. Elle ne fut pas dans mon cœur comme une femme qui veut une place, qui s'y grave par le dévouement ou par l'excès du plaisir, non. Elle eut tout le cœur, et fut quelque chose de nécessaire au jeu des muscles. Elle devint ce qu'était la Béatrix du poète florentin, la laure sans tache du poète vénitien, la mère des grandes pensées, la cause inconnue des résolutions qui sauvent, le soutien de l'avenir, la lumière qui brille dans l'obscurité comme le lys dans les feuillages sombres. Oui, elle dicta ces hautes déterminations qui coupent la part au feu, qui restituent la chose en péril. Elle m'a donné cette constance à la Coligny, pour vaincre les vainqueurs, pour renaître de la défaite, pour lasser les plus forts lutteurs. Le lendemain, après avoir déjeuné à Frapelle et fait mes adieux à mes hôtes si complaisants à l'égoïsme de mon amour, je me rendis à Clochegourde. Monsieur et Madame de Mortsauf avaient projeté de me reconduire à Tours, d'où je devais partir dans la nuit pour Paris. Pendant ce chemin, la comtesse fut affectueusement muette. Elle prétendit d'abord avoir la migraine, puis elle rougit de ce mensonge et le pallia soudain en disant qu'elle ne me voyait point partir sans regret. Le comte m'invita à venir chez lui quand, en l'absence des Chessel, j'aurais l'envie de voir la vallée de l'Indre. Nous nous séparâmes héroïquement, sans larmes apparentes. Mais comme quelques enfants maladifs, Jacques eut un mouvement de sensibilité qui lui fit répandre quelques larmes, tandis que Madeleine, déjà femme, serrait la main de sa mère. « Cher petit, dit la comtesse, en baisant Jacques avec passion. » Quand je me trouvai seul à Tours, il me prit après le dîner une de ces rages inexpliquées que l'on éprouve qu'au jeune âge. Je louai un cheval et franchis en 5 quarts d'heure la distance entre Tours et Pont-d'Urban. Là, honteux de montrer ma folie, je courus à pied dans le chemin et j'arrivai comme un espion à pas de loup sous la terrasse. La comtesse n'y était pas. J'imaginai qu'elle souffrait. J'avais gardé la clé de la petite porte, j'entrai. Elle descendait en ce moment le perron avec ses 2 enfants pour venir respirer, triste et lente, la douce mélancolie empreinte sur ce paysage au coucher du soleil. « Ma mère, voilà Félix !» dit Madeleine. « Oui, moi, lui dis-je à l'oreille, je me suis demandé pourquoi j'étais à Tours quand il m'était encore facile de vous voir. Pourquoi ne pas accomplir un désir que dans 8 jours je ne pourrai plus réaliser ?» « Il ne nous quitte pas, ma mère !» cria Jacques en sautant à plusieurs reprises. « Tais-toi donc, dit Madeleine, tu vas attirer ici le général. » « Ceci n'est pas sage, reprit-elle, quelle folie !» Cette consonance dite dans les larmes par sa voix, quel paiement de ce qu'on devrait appeler les calculs usuraires de l'amour. « J'avais oublié de vous rendre cette clé, lui dis-je en souriant. « Vous ne reviendrez donc plus, dit-elle. » « Est-ce que nous nous quittons ? » demandai-je en lui jetant un regard qui lui fit abaisser ses paupières pour voiler sa muette réponse. Je partis après quelques moments passés dans une de ces heureuses stupeurs des âmes arrivées là où finit l'exaltation et où commence la folle extase. Je m'en allais d'un pas lent, en me retournant sans cesse. Quand au sommet du plateau je contemplais la vallée une dernière fois, je fus saisi du contraste qu'elle m'offrit en la comparant à ce qu'elle était quand j'y vins. Ne verdoyait-elle pas? Ne flambait-elle pas alors, comme flambaient, comme verdoyaient mes désirs et mes espérances? Initié maintenant au sombre et mélancolique mystère d'une famille, partageant les angoisses d'une niobée chrétienne triste comme elle, l'âme rembrunie, je trouvais en ce moment la vallée au ton de mes idées. En ce moment, les champs étaient dépouillés, les feuilles des peupliers tombaient, et celles qui restaient avaient la couleur de la rouille. Les pampres étaient brûlés, la cime des bois offrait les teintes graves de cette couleur tannée que jadis les rois adoptaient pour leur costume et qui cachait la pourpre du pouvoir sous le brun des chagrins. Toujours en harmonie avec mes pensées, la vallée où se mouraient les rayons jaunes d'un soleil tiède me présentait encore une vivante image de mon âme. Quitter une femme aimée est une situation horrible, ou simple, selon les natures. Moi, je me trouvais soudain comme dans un pays étranger dont j'ignorais la langue. Je ne pouvais me prendre à rien en voyant les choses auxquelles je ne sentais plus mon âme attachée. Alors l'étendue de mon amour se déploya, et ma chère Henriette s'éleva de toute sa hauteur dans ce désert où je ne vécus que par son souvenir. Elle fut une figure si religieusement adorée que je résolus de rester sans souillure en présence de ma divinité secrète et me revêtis idéalement de la robe blanche des Lévites, imitant ainsi Pétrarque, qui ne se présenta jamais devant l'or de mauve qu'entièrement habillé de blanc. Avec quelle impatience j'attendis la première nuit, où de retour chez mon père je pourrais lire cette lettre que je touchais durant le voyage comme un avare tâte une somme en billets qu'il est forcé de porter sur lui. Pendant la nuit, je baisais le papier sur lequel Henriette avait manifesté ses volontés, où je devais reprendre les mystérieuses effluves échappées de sa main, d'où les accentuations de sa voix s'élanceraient dans mon entendement recueilli. Je n'ai jamais lu ces lettres que comme je lus la première au lit et au milieu d'un silence absolu.
Reste, reste encore avec moi sur mon corps, dans mes bras enlacés. Essoufflé, assoui, étourdi, reste au chaud, alangui dans l'enclos de la nuit, sur mon cœur, sans pudeur. Étendu, reste là, sans un mot sur ta joie, sur ma peau, dans l'espoir, dans le noir, jusqu'au jour, mon amour.
Lectures en liberté. Denis Flageol.
Après notre pause musicale habituelle, nous revenons au Lys dans la vallée de Balzac et nous allons nous arrêter à la fameuse lettre envoyée par Madame de Meursault à Félix. Quel bonheur, mon ami, d'avoir à rassembler les éléments épars de mon expérience pour vous la transmettre et vous en armer contre les dangers du monde. J'ai ressenti les plaisirs permis de l'affection maternelle en m'occupant de vous durant quelques nuits. Pendant que j'écrivais ceci, phrase à phrase, en me transportant par avance dans la vie que vous mènerez, j'allais parfois à la fenêtre. En voyant de là les tours de Frapesle éclairées par la lune, souvent je me disais « Il dort et je veille sur lui ». Sensations charmantes qui m'ont rappelé les premiers bonheurs de ma vie alors que je contemplais Jacques endormi dans son berceau en attendant son réveil pour lui donner mon lait. N'êtes-vous pas un homme enfant de qui l'âme doit être réconfortée par quelques préceptes dont vous n'avez pu vous nourrir dans ces affreux collèges où vous avez tant souffert, mais que nous autres femmes avons le privilège de vous présenter? Ces riens influent sur vos succès, ils les préparent et les consolident. Ne sera-ce pas une maternité spirituelle que cet engendrement du système auquel un homme doit rapporter les actions de sa vie, une maternité bien comprise par l'enfant? Cher Félix, laissez-moi, quand même je commettrai ici quelques erreurs, imprimer à notre amitié le désintéressement qui la sanctifiera. Vous livrer au monde, n'est-ce pas renoncer à vous? Mais je vous aime assez pour sacrifier mes jouissances à votre bel avenir. Depuis bientôt 4 mois, vous m'avez fait étrangement réfléchir aux lois et aux mœurs qui régissent notre époque. Les conversations que j'ai eues avec ma tante et dont le sens vous appartient, à vous qui l'a remplacée, les événements de sa vie que M. de Meursault m'a racontés, les paroles de mon père à qui la cour fut si familière, les plus grandes comme les plus petites circonstances, tout a surgi dans ma mémoire au profit de mon enfant adoptif que je vois près de se lancer au milieu des hommes presque seul, prêt de se diriger sans conseil dans un pays où plusieurs périssent par leurs bonnes qualités étourdiment déployées, où certains réussissent par leurs mauvaises bien employées. Avant tout, méditez l'expression concise de mon opinion sur la société considérée dans son ensemble, car avec vous, peu de paroles suffisent. J'ignore si les sociétés sont d'origine divine, ou si elles sont inventées par l'homme, j'ignore également en quel sens elles se meuvent. Ce qui me semble certain, c'est leur existence. Dès que vous les acceptez au lieu de vivre à l'écart, vous devez en tenir les conditions constitutives pour bonnes. Entre elles et vous, demain, il se signera comme un contrat. La société d'aujourd'hui se sert-elle plus de l'homme qu'elle ne lui en profite? Je le crois. Mais que l'homme y trouve plus de charges que de bénéfices, ou qu'il achète trop chèrement les avantages qu'il en recueille, ces questions regardent le législateur et non l'individu. Selon moi, vous devez donc obéir en toute chose à la loi générale, sans la discuter, qu'elle blesse ou flatte votre intérêt. Quelque simple que puisse vous paraître ce principe, Il est difficile en ses applications. Il est comme une sève qui doit s'infiltrer dans les moindres tuyaux capillaires pour vivifier l'arbre, lui conserver sa verdure, développer ses fleurs et bonifier ses fruits si magnifiquement qu'il excite une admiration générale. Cher. Les lois ne sont pas toutes écrites dans un livre. Les mœurs aussi créent des lois. Les plus importantes sont les moins connues. Il n'est ni professeur, ni traité, ni école pour ce droit qui régit vos actions, vos discours, votre vie extérieure, la manière de vous présenter au monde ou d'aborder la fortune. Faillir à ces lois secrètes, c'est rester au fond de l'état social au lieu de le dominer. Quand même cette lettre ferait de fréquents pléonasmes avec vos pensées, laissez-moi donc vous confier ma politique de femme. Expliquer la société par la théorie du bonheur individuel pris avec adresse aux dépens de tous est une doctrine fatale dont les déductions sévères amènent l'homme à croire que tout ce qu'il s'attribue secrètement sans que la loi, le monde ou l'individu s'aperçoivent d'une lésion est bien ou dûment acquis. D'après cette charte, le voleur habile est absous. La femme qui manque à ses devoirs sans qu'on en sache rien est heureuse et sage. Tuer un homme sans que la justice en ait une seule preuve, si vous conquérez ainsi quelques diadèmes à la Macbeth, vous aurez bien agi. Votre intérêt devient une loi suprême. La question consiste à tourner sans témoin ni preuve les difficultés que les mœurs et les lois mettent entre vous et vos satisfactions. À qui voit ainsi la société ? Le problème que constitue une fortune à faire, mon ami, se réduit à jouer une partie dont les enjeux sont 1 million ou le bagne, une position politique ou le déshonneur. Encore le tapis vert n'a-t-il pas assez de draps pour tous les joueurs ? Et faut-il une sorte de génie pour combiner un coup ? Je ne vous parle ni de croyances religieuses ni de sentiments. Il s'agit ici des rouages d'une machine d'or et de fer et de ses résultats immédiats dont s'occupent les hommes. Cher enfant de mon cœur, si vous partagez mon horreur envers cette théorie des criminels, la société ne s'expliquera donc à vos yeux que comme elle s'explique dans tout entendement sain par la théorie des devoirs. Oui, vous vous devez les uns aux autres sous 1000 formes diverses. Selon moi, le duc et pair se doit bien plus à l'artisan ou au pauvre que le pauvre et l'artisan ne se doivent au duc et au pair. Les obligations contractées s'accroissent en raison des bénéfices que la société présente à l'homme. D'après ce principe, vrai en commerce comme en politique, que la gravité des soins est partout en raison de l'étendue des profits. Chacun paie sa dette à sa manière. Quand notre pauvre homme de la rétorière vient se coucher fatigué de ses labours, croyez-vous qu'il n'ait pas rempli ses devoirs ? Il a certes mieux accompli les siens que beaucoup de gens haut placés. En considérant ainsi la société dans laquelle vous voudrez une place en harmonie avec votre intelligence et vos facultés, vous avez donc à poser comme principe générateur cette maxime « Ne se rien permettre ni contre sa conscience, ni contre la conscience publique ». Quoique mon insistance puisse vous sembler superflue, je vous supplie. Oui. Votre Henriette vous supplie de bien peser le sens de ces deux paroles, simples en apparence. Elles signifient, cher, que la droiture, l'honneur, la politesse sont les instruments les plus sûrs et les plus prompts de votre fortune. Dans ce monde égoïste, une foule de gens vous diront que l'on ne se fait pas son chemin par les sentiments, que les considérations morales trop respectées retardent leur marche. Vous verrez des hommes mal élevés, mal appris ou incapables de toiser l'avenir, froissant un petit, se rendant coupable d'une impolitesse envers une vieille femme, refusant de s'ennuyer un moment avec quelques bons vieillards sous prétexte qu'ils ne leur sont utiles à rien. Plus tard, vous apercevrez ces hommes accrochés à des épines qu'ils n'auront pas épointées et manquant leur fortune pour un rien. Tandis que l'homme rompu de bonne heure à cette théorie des devoirs ne rencontrera point d'obstacle. Peut-être arrivera-t-il moins promptement, mais sa fortune sera solide et restera quand celle des autres croulera. Nous avons terminé pour ce soir cet extrait de Lys dans la vallée de Balzac. Nous y reviendrons demain pour écouter l'enterrement de Madame de Mortsauf. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.